Chapitre 5.
En 1964, une femme nommée Kitty Genovese a été assassinée. Kitty était une barmaid de 28 ans. Elle a été violée et poignardée vers 3h du matin, à une cinquantaine de mètres de son appartement du Queens. Elle a appelé à l'aide, mais bien que plusieurs voisins aient entendu ses cris, personne n'est venu à son secours. Son agresseur Winston Mosley l'a quittée un moment, avant de revenir 10 minutes plus tard, de la poignarder à plusieurs reprises et de lui voler $50. Elle est morte de ses blessures. Kitty Genovese a été attaquée, violée et assassinée devant 38 témoins. 38 personnes ont vu son agression et pas une seule n'est venue à son secours ou n'a appelé la police.
Le professeur Kindred, la soixantaine, s'adresse à l'amphi, les cheveux toujours en bataille. Et quand il nous regarde un à un, on lit l'accusation dans ses yeux comme si c'était nous, les 38 personnes qui avaient laissé cette femme mourir.
« Cela s'appelle l'effet spectateur, » reprend-il. « Un phénomène de psychologie sociale où les individus sont moins susceptibles d'offrir leur aide à une victime précisément parce que d'autres personnes sont présentes. »
Dans la salle, les étudiants griffonnent leurs notes ou tapent sur leur ordinateur portable. Moi, je me contente de regarder le professeur.
« Réfléchissez à cela, » continue Kindred. Plus de 3 dizaines d'individus ont permis qu'une femme soit violée et assassinée sous leurs yeux, et ils n'ont rien fait. Cela démontre parfaitement le concept de diffusion de la responsabilité au sein d'un groupe.
Je me tortille sur mon siège, tâchant d'imaginer ce que je ferais dans cette situation. Si, en regardant par ma fenêtre, je voyais un homme agresser une femme, je ne resterais pas assise les bras croisés, ça c'est sûr. Je sauterais par la fenêtre s'il le fallait. Non, je ne ferai pas ça. J'ai appris à me contrôler un minimum. En revanche, j'appellerai police secours. Je sortirai en emportant un couteau. Je ne m'en servirai pas, mais l'arme pourrait suffire à effrayer un agresseur. Je suis encore secouée à la pensée de cette pauvre fille assassinée il y a plus d'un demi-siècle quand je sors de l'amphithéâtre. Dans la rue, je manque de passer devant Brock sans le remarquer. Il doit me courir après et m'attraper par le bras. Ah, mais oui, on avait prévu de dîner ensemble. Il me sourit de toutes ses dents, les plus blanches que j'ai jamais vues. Je ne lui ai jamais demandé s'il les faisait blanchir par un professionnel, mais sans doute que oui. Des dents ne peuvent pas être aussi blanches naturellement, ce n'est pas humain. « Salut !» me dit-il. « On a quelque chose à fêter ce soir, pas vrai ? Ton nouveau travail ?»«
Oui. » Je marmonne avec un sourire. « Désolée. »
« Tu vas bien ?»«
Je suis... juste... je suis secouée par le cours auquel je viens d'assister, sur une femme dans les années 1960 qui a été violée devant 38 spectateurs sans qu'aucun ne réagisse. Comment c'est possible une chose pareille ?»
Brock claque des doigts.
« Kitty Genovese, c'est ça ? Je me souviens de mes cours de psychologie à l'université. »«
C'est ça. Et c'est affreux. »«
Ouais, c'est surtout des conneries. »
Il glisse sa main dans la mienne. Sa paume est tiède.
Le New York Times en a fait une histoire à sensation. Il y avait beaucoup moins de témoins que ce que le Times a rapporté. Et d'après l'emplacement des appartements, la plupart des voisins n'ont pas pu voir ce qui se passait réellement. Ils ont pensé qu'il s'agissait d'une simple querelle d'amoureux. Et puis, il y en a quand même pas mal qui ont appelé la police. Je pense qu'elle était dans les bras d'un de ses voisins quand l'ambulance est arrivée.
Ah. Je me sens légèrement ridicule, comme souvent quand Brock en sait plus que moi sur quelque chose. Ce qui arrive fréquemment, en fait. D'après ce que j'en vois, ce gars sait à peu près tout sur tout. C'est l'une des nombreuses particularités qui le rendent si parfait.
Mais, exposé comme ça, l'histoire est beaucoup moins sensationnelle, hein.
Brock me lâche la main et passe un bras autour de mes épaules. J'aperçois notre reflet dans une vitrine de magasin et je ne peux m'empêcher de penser qu'on forme un joli couple, du genre qui inviterait 500 personnes à son mariage, puis achèterait une maison avec une clôture blanche en banlieue et entreprendrait de la remplir d'enfants. Quoi qu'il en soit, tu n'as pas à te sentir mal pour un événement survenu il y a des décennies. Tu es vraiment... tu es un peu trop gentil, tu sais. J'ai toujours eu l'envie d'aider les gens à problème. C'est plus fort que moi. Malheureusement, ça m'attire parfois des ennuis. Si seulement j'étais aussi gentil que Brock le pense. Il ne sait rien de moi.
Désolée, je peux pas m'en empêcher.
Je suppose que c'est pour ça que tu veux devenir assistante sociale. » conclut-il avec un clin d'œil. « À moins que j'arrive à te convaincre de t'engager dans une carrière plus lucrative. »
C'est mon dernier petit ami qui m'a convaincue de suivre la voie du travail social, pour pouvoir aider les gens dans le besoin tout en restant dans les limites de la loi.
« Il faut toujours que tu aides tout le monde, Millie. C'est ce que j'aime chez toi. »
Lui me comprenait vraiment. Malheureusement, il n'est plus là.
Brock exerce une pression sur mes épaules.
Bref, assez pensé aux femmes qui ont été assassinées dans les années 1960. Parle-moi plutôt de ton nouveau boulot.
Je lui raconte tout sur l'impressionnant penthouse des Garrick. Quand je lui parle de la vue, de l'emplacement et de la mezzanine, il laisse échapper un petit sifflement.
Cet appartement a dû coûter une fortune, commande-t-il alors que nous nous engageons dans la rue, évitant de justesse une collision avec un vélo. D'après mon expérience, les cyclistes de cette ville n'ont absolument aucun respect pour les feux de circulation ou les piétons.
Je parie qu'ils l'ont payé 20 millions, au bas mot.
Ouah, tu crois ?
Carrément. Ils ont intérêt à bien te rémunérer.
C'est le cas. Quand Douglas a abordé la question du salaire horaire, j'avais presque le symbole du dollar qui défilait comme à la machine à sous dans mes prunelles.
« Comment tu as dit qu'il s'appelle, le gars qui t'a embauché ?»«
Douglas Garrick. » Brock claque des doigts.
Hey, « Hé, mais c'est le PDG de Coinstock. Je l'ai rencontré une fois. Il avait engagé mon équipe pour l'aider sur un brevet. Un gars vraiment sympa. »«
Ouais, il m'a eu l'air sympa. » »«
Sympa, oui. Pourtant, je n'arrête pas de penser à cette porte fermée à l'étage. » À sa femme qui ne pouvait même pas sortir me rencontrer. Aussi ravie que je sois de ce travail, quelque chose me met mal à l'aise.
Brock m'entraîne sur un passage piéton. Le feu est clignotant, sur le point de devenir rouge, et on finit de traverser juste à temps.
Et tu sais quoi aussi ? Leur immeuble n'est qu'à 500 mètres environ de chez moi.
Je dis ça, je dis rien.
Je savais déjà que le penthouse est proche de l'appartement de Brock, bien sûr. Je me tortille, aussi mal à l'aise que dans l'amphithéâtre tout à l'heure. Brock ressemble à présent à un chien qui aurait découvert un os. Il veut que j'emménage chez lui, il ne lâche pas l'affaire. De mon côté, je ne peux me débarrasser du sentiment que s'il me connaissait vraiment, il ne voudrait pas. J'aime être avec Brock, et je ne veux pas tout gâcher.
Brock. Il lève les yeux au ciel.
Ok, ok. Écoute, je ne cherche pas à te mettre la pression. Si tu n'es pas prête, pas de problème. Mais pour info, je trouve qu'on forme une bonne équipe. Et tu passes la moitié de tes nuits chez moi de toute façon, non ?
Je marmonne, sur le ton le plus neutre possible. Il m'adresse un nouvel aperçu de ses dents éclatantes.
Et puis, mes parents aimeraient te rencontrer.
Ok, cette fois je vais vomir. Même s'il me harcèle pour que j'emménage avec lui, je n'avais pas imaginé qu'il ait parlé de moi à ses parents. Mais si, évidemment. Il les appelle probablement une fois par semaine, le dimanche à 20h, et il les met au courant de tous les détails pertinents de sa vie parfaite.
Ah ! Je lâche d'une voix faiblarde.
Et j'aimerais aussi rencontrer les tiens,
ajoute-t-il. Ce serait peut-être le moment idéal pour lui dire que je ne vois plus mes parents. Seulement les mots ne viennent pas. C'est si dur. Le dernier gars avec qui je suis sortie savait tout de moi depuis le début. Du coup, je n'ai pas eu à lui révéler mon passé compliqué. Il n'y a jamais eu ce moment terrifiant où je mets tout sur la table. Et comme je l'ai dit, Brock est tellement parfait. Ses seules imperfections se résument à de petits détails insignifiants, comme la lunette des toilettes qu'il a laissé relever un jour dans mon appartement. Et même ce crime, il ne l'a commis qu'une fois. Le problème avec Brock, c'est qu'il est prêt à s'installer. Or, même si j'ai le même âge que lui, moi je n'en suis pas encore là. Il ne veut pas attendre. Il a un super boulot dans le meilleur cabinet d'avocat de la ville et il gagne plus qu'assez pour subvenir aux besoins d'une famille. Même si, lors de sa dernière visite, le cardiologue lui a donné un certificat de bonne santé, il s'inquiète de ne pouvoir atteindre l'âge prévu par l'espérance de vie d'un homme blanc dans ce pays. Il veut se marier et avoir des enfants pendant qu'il peut encore en profiter. De mon côté, j'ai l'impression d'être encore en train de grandir. Je suis toujours à l'école, après tout. Je ne suis pas prête à me marier. Je ne peux pas. Voilà. Brock s'arrête de marcher un instant pour me regarder. Un homme qui nous suivait manque de nous emboutir et jure en continuant son chemin.
« C'est bon, » fait Brock. « Je ne veux pas te presser, mais sache que je suis fou de toi, Millie. »
Moi aussi, je suis folle de toi. » Il prend mes deux mains dans les siennes et plonge son regard dans le mien. « En fait, je t'aime, en quelque sorte. »
Mon cœur s'emballe un peu. Il m'a déjà dit qu'il était fou de moi, mais il ne m'avait encore jamais dit qu'il m'aimait, même avec le « en quelque sorte » pour atténuer la chose. J'ouvre la bouche, sans trop savoir ce que je vais lui dire, mais avant que les mots ne sortent, j'ai de nouveau cette sensation de picotement dans la nuque. Pourquoi ai-je l'impression que quelqu'un m'observe? Est-ce que je perds la tête?
Dis donc, finis-je par lâcher. C'est mignon, ça. Je ne suis pas prête à lui faire le même aveu. Je ne peux pas passer à l'étape suivante de notre relation tant qu'il ignore encore tellement de choses à mon sujet. Heureusement, il n'insiste pas.
Viens, dit-il. Allons nous prendre des sushis.
À un moment ou à un autre, il faudra aussi que je lui avoue que je n'aime pas les sushis.